l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga.
Bonjour Charles et Victor, de quel collectif tiens sur Sainte-Afrique ?
De l'Amassade.
Bonjour.
Donc en fait, vous venez de Sainte-Afrique, en Aveyron, et vous venez parler donc là dans le cadre du contre-sommet au G7 qui a lieu à Hendaye cette année, de votre lutte sur sur vos montagnes, j'imagine, sur vos montagnes d'Aveyron.
Sur nos collines, grosses collines.
Des hauts plateaux.
Le lieu où on est, c'est un haut plateau proche de Saint-Victor et Melvieux, près de Sainte-Afrique.
Alors, c'est une lutte qui concerne quoi ?
C'est une lutte qui concerne principalement les éoliennes industrielles et qui se concentre sur un nœud important qui est le projet d'un méga transformateur sur la commune de Saint-Victor et Melvieux qui va permettre de relier toute la production industrielle d'énergie renouvelable de la région.
Alors, les éoliennes, c'est plutôt bien, c'est pas du nucléaire, c'est la transition énergétique ?
C'est toute la question, c'est tout le sujet du problème en fait. C'est toute la farce de la transition énergétique où on voudrait nous faire croire qu'on va réussir à continuer à conserver le même mode de vie en produisant grâce à une soi-disant énergie renouvelable, alors qu'en réalité, ce mode de production, il est aussi presque aussi mauvais que les autres types de production. Enfin, on essaie de présenter ça comme une solution alternative, mais en fait, comme si on allait remplacer le nucléaire ou le pétrole par la production d'énergie renouvelable, alors qu'en fait, on voit très bien dans l'histoire qu'il n'y a jamais de remplacement, mais une accumulation d'énergie, parce qu'on a besoin de toujours plus d'énergie dans la société dans laquelle on vit. Il y a tout un tas de nouveaux besoins, et pas seulement domestiques, de nouveaux besoins pour les serveurs, pour avoir sur lequel repose tout le système d'Internet et tout ça, pour la surveillance énormément, que ce soit Frontex, juste un exemple, Frontex dans nos frontières, aux frontières de l'Europe, qui est l'entreprise qui gère la sécurité au niveau des frontières de l'Europe, qui utilise une énergie absolument folle pour surveiller les frontières et empêcher les gens chez qui on fout la merde, des pays dans lesquels on fout la merde, pour les empêcher de venir chez nous. On utilise une énergie absolument folle. Donc on a tout un tas de besoins pour la société qui sont complètement faux.
Donc ce que tu veux dire finalement, c'est que plutôt que de mettre des grosses éoliennes un peu partout, il faut d'abord réfléchir à notre consommation et réduire ou maîtriser nos consommations d'énergie.
Il faut ça déjà, en fait, plus que réduire, il faut réapprendre à vivre avec ce qu'on a autour de nous, réapprendre à produire nous-mêmes de l'énergie, reprendre le contrôle de la production énergétique, en fait, pour ne plus dépendre d'un système énergétique qui est construit et contrôlé par l'État, par les États, par les puissances capitalistes, par les multinationales, et dont on est complètement dépendant.
Et alors pourquoi ce serait pas bien ? C'est vrai qu'en France, on a EDF et RTE donc, qui gèrent les réseaux, qui du coup rendent un service à la population. Vous êtes plutôt opposé à ça dans votre collectif ?
Il y a des utilisations de l'énergie électrique qui est majoritairement d'origine nucléaire en France qui sont utiles, comme l'éclairage, la musique et d'autres choses. Par contre, stocker une photo sur le cloud plutôt que de l'imprimer et de la regarder, déjà tu ne la regardes pas quand on est sur le cloud, et en plus, énergétiquement, un bout de papier, ça prend beaucoup moins de watts que de conserver pendant des milliers d'années la photo de vacances de la grand-mère.
Puis sur RTE, en fait, on présente ça comme un service, mais au final, l'énergie, la production d'énergie, c'est aussi un système de domination qui permet d'asseoir le pouvoir de l'État et des multinationales sur les peuples. Comment sont construits ces systèmes énergétiques où on décide, juste dans ce contexte-là, on a décidé, on a regardé sur une carte, on a vu qu'il y a plein de vent qui passe ici. On va dire, tiens, on met des éoliennes industrielles. On n'a pas du tout un besoin de la population d'avoir des éoliennes ici. L'Aveyron est positif en énergie déjà, et on veut leur construire tout un tas d'éoliennes pour produire cette énergie. On pourrait dire qu'il faut sacrifier pour le reste de la France, mais c'est même pas ça en fait. S'il y a un transformateur pour pousser l'énergie à 400 000 volts, c'est pour l'envoyer hors de la France. C'est pour l'envoyer sur l'autoroute de l'énergie qui part du nord de l'Europe jusqu'au Maroc et qui va permettre de faire de l'argent en fait. C'est tout un business. On veut produire de l'énergie pour faire de l'argent, pas pour répondre à des besoins.
Et à Saint-Victor, il y a déjà un petit transformateur pour du 25 000 ou 200 000 volts. Il y a déjà une 14 lignes haute moyenne tension et une grande ligne haute tension qui passent. Et du coup, on ne peut pas donner le nom à cette lutte, un nom de localiste, comme si ces gens ne voulaient pas participer au service public. Il y a déjà deux barrages et tout ce que je viens de vous citer sur la commune. Ils ont déjà perdu les vergers dans le remplissage du barrage par EDF il y a 60 ans à peu près. Donc c'est déjà une commune qui, et les gens le disent, ils ont mal à la tête sous les lignes haute tension. Ils savent bien que les vaches ne veulent pas passer à cet endroit-là parce qu'il y a un pylône. Donc c'est des gens qui ont déjà donné de leur cadre de vie et de leur santé pour l'électricité qu'ils ne consomment pas vraiment eux-mêmes, qui sert à, je sais pas, les panneaux publicitaires en ville. On est là avec le petit village de Saint-Victor-et-Melvieux qui est dans la diagonale du vide. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion-là. Et là, pour le transformateur, l'acceptabilité sociale ne rentre pas en compte parce qu'ils sont déjà propriétaires du terrain, des lignes. Donc pour eux, c'est beaucoup plus facile. Sans demander quoi que ce soit aux gens du coin, ils vont changer les lignes. Ils sont déjà, entre guillemets, à moitié en terrain conquis. Ils agissent vraiment en conquérant. Il y a eu des attitudes mafieuses avec des gens stationnés devant la maison de la propriétaire d'un terrain parce qu'elle ne voulait pas le vendre. Et elle a craqué et on a été nombreux à acheter un bout de terrain d'où maintenant on est expulsable puisque c'est soi-disant un projet d'intérêt général que de transformer l'électricité en 25 000, 200 000 volts, en 400 000 volts. Après, il y a d'autres considérations techniques. Plus on monte en tension, plus il y a des déperditions. Donc même des experts énergétiques vont vous dire que cette solution de produire avec des méga usines à énergie ou des fermes comme ils appellent, parce qu'il n'y a plus de fermes à vocation vivrière, et du coup ils font des fermes éoliennes pour envoyer l'électricité loin et en perdre une grosse proportion. Ils vont baratiner avec l'histoire que les barrages vont permettre de restocker l'énergie qui n'est pas utilisée pendant la nuit à cause des grosses unités de production. Mais même quand on remonte de l'eau sur un bassin de stockage en altitude, ils perdent encore 30%. Donc, à un moment, est-ce qu'on produit de l'énergie pour la perdre ou est-ce qu'on produit de l'énergie pour l'utiliser ? Il y a vraiment cette question-là. Et personnellement, j'ai mis les pieds à Saint-Victor-en-Melvieux la première fois où les uluberlus qui osaient s'élever contre le dogme de l'éolienne qui va nous sauver construisaient une éolienne. C'est-à-dire que ce mouvement anti-éolien construit une éolienne artisanale à échelle humaine dont on peut gérer la maintenance nous-mêmes. Donc cet exemple est une des solutions que nous on peut donner aux gens en réfléchissant à échelle locale. On peut tout à fait utiliser de l'énergie qui est pas loin de là où on vit plutôt que d'essayer de la transporter. Parce qu'une éolienne, après, ça occupe peut-être qu'une petite place, mais chaque éolienne va nécessiter 20 km de tranchée. Donc je vous passe les détails sur toutes les conséquences cachées de simplement implanter 6 éoliennes en plein milieu de la campagne.
C'est surtout, si j'entends bien, se dire, vous en avez parlé, si on produit quelque part de l'énergie et que ça doit voyager très loin, il y a énormément de pertes en ligne. Donc ça, c'est un énorme gâchis. Et après, c'est quel type de production ? Si c'est une production industrielle, qu'est-ce que ça signifie derrière ? Alors justement, quels sont pour vous les impacts négatifs de la production éolienne industrielle ? C'est quoi le problème ?
Alors il y en a tout un tas sur des questions techniques. On va dire qu'il y a, tout le problème de la fabrication de l'éolienne. Ça utilise, j'ai plus les chiffres en tête, mais peu importe, c'est des centaines de kilos de terres rares qui sont extraites en Amérique latine, en Chine, en Afrique. Donc après, c'est toujours difficile de voir ça depuis chez nous, et puis c'est pareil pour tout un tas de production d'énergie. Mais en tout cas, c'est un point qui va complètement contredire l'idée que l'éolienne, c'est vert. Parce qu'il faut la produire, il faut la fabriquer, il faut la démanteler. Ça utilise une quantité, je ne sais plus combien exactement, d'huile chaque mois qu'il faut changer, qui s'infiltre dans les sols. Enfin, ça, c'est juste sur l'idée environnementale. Après, la réflexion qu'on a, elle va plus loin sur le système énergétique, mais juste sur les impacts environnementaux, c'est énorme. Donc, le présenter comme une énergie verte, écologiste, c'est une blague.
Alors, hélas, je suis devenu un peu expert de l'énergie au fur et à mesure parce que on s'intéresse à ces problèmes-là et les gens nous demandent souvent de donner nos solutions. Mais je ne sais pas si c'est vraiment à moi de ramasser tous les papiers que les gens jettent par terre dans la rue. Il y a un moment, il y a une poubelle où tu n'as pas de papier, il y a peut-être une solution à travailler en amont Voilà. Je voulais rebondir sur l'histoire de la solidarité. Ok, les Bretons, ils produisent pas de courant, mais moi, je veux bien être plutôt solidaire des enfants esclaves au Kivu qui récoltent le coltan et tout ça. Donc, quand ça leur va bien, on dit... Quand les dirigeants, ça leur va bien, on nous demande d'être solidaire, mais solidaire... Enfin, voilà, il y a plusieurs facettes à la pièce, et finalement, si on veut vraiment réfléchir en termes de solidarité, est-ce qu'on a besoin de faire venir des éoliennes de Chine? Il y a une usine de tubes, des mâts d'éoliennes, hein, qui font des 40-60 mètres, enfin c'est quelque chose de très particulier. Cette usine ferme dans les mois qui viennent parce qu'elle est trop chère à cause du coût du travail, entre guillemets, le coût du travail, hein, c'est un autre débat. Après, à traverser la France, et rien que pour aller l'installer, donc c'est-à-dire ça va durer une journée, ils font un chemin de 8 mètres jusqu'au pied de l'éolienne. Donc pour chaque éolienne, c'est... à la fois dans le détail et en généralité, quelque chose d'absurde. Et si on réfléchit avec le raisonnement des technocrates en termes de rendement, c'est naze parce que c'est rentable au bout de 25 ans, entre le transport, le cuivre, l'huile et tout ce qu'on vient d'expliquer. C'est au bout de 25 ans que l'éolienne est rentable énergétiquement. Par contre, au bout de 25 ans, c'est sa durée de vie d'obsolescence programmée, on doit la démonter. Il y avait des conflits sur les premiers contrats d'éolien en France où c'était au propriétaire du terrain de le démonter, qui a bien sûr pas payé 200 000 euros pour ça, ça a commencé à faire un scandale. Donc les grosses boîtes qui construisent les éoliennes sous des gentils petits noms genre Vent d'Ouest, en fait ces grosses boîtes c'est Vinci ou Veolia ou je sais pas qui, et il y a un autre problème en plus de l'environnement, du rendement énergétique, donc des problèmes techniques et des problèmes sociaux, c'est vraiment un problème d'organisation. À la place de payer des impôts, Vinci paye 1 million et construit une éolienne dont il est propriétaire, il récolte des sous. À la place de payer des impôts, il récolte des sous sur une éolienne. Et il demande l'autorisation à qui ? Un agriculteur qui est dépassé par les événements, qui est intéressé par avoir 10 000 euros par an de loyer. Et il suffit donc d'avoir le nom de cette personne qui veut bien faire construire l'éolienne loin de chez lui, sur un terrain proche de je ne sais pas où, mais qui ne gêne pas lui personnellement. Le préfet y signe parce que c'est 5 éoliennes seulement, et ça s'additionne. C'était prévu 1 000. Ça va être bientôt 2 000 sur le rayon de 100 km aux alentours de Saint-Victor et Melvieux. Et il y a un petit alinéa dans le permis de construire qui dit avec capacité de doublage de transport. Donc qui dit s'ils veulent doubler le transport, c'est qu'ils sont prêts à mettre 4 000 éoliennes dans la région. Donc voilà, pourquoi nous on est arrivé à Saint-Victor ? Parce qu'on peut bloquer autant de chantiers éoliens qu'on veut, ou photovoltaïques. Ils en feront 5-6 autres demandes, ils en obtiendront une autre. Par contre, ce transformateur, c'est vraiment un nœud pour eux, pour pouvoir, entre guillemets, rentabiliser leurs investissements. Un petit détail pour vous montrer leur cynisme, les crédits carbone et le loyer de l'agriculteur commencent le jour où techniquement l'éolienne produit du jus. Je viens avec mon détecteur, ça marche, ça y est, l'argent rentre. Après, elle n'est pas encore reliée au réseau. Elle dysfonctionne, elle est en panne, ça les regarde pas. À partir du moment où elle est techniquement productrice d'énergie, eh ben c'est bon, eux ils gagnent leur crédit carbone, l'agriculteur il a son loyer, et puis ils vont faire d'autres demandes ailleurs, parce que c'est un puissant fond. Le fait de gagner des sous en faisant ces éoliennes, ils ont des crédits carbone pour pouvoir faire plus de béton, parce qu'ils ont construit des éoliennes. Donc c'est vertigineux quand tu réfléchis aux conséquences de pourquoi. Et quand ma maman elle me dit que les éoliennes c'est joli, je dis oui, ok, c'est peut-être joli comme ça, mais t'en voudrais pas une près de chez toi. Et hélas, il y a peu de gens qui sont prêts à venir habiter sous des éoliennes. C'est peut-être l'avenir, on verra.
Tout a commencé en 75 à Rambouillet grâce à la bonne idée d'un président français, un petit rancard peinard, comme à la maison, entre États-Unis, Europe et Japon. Giscard est jeune, Giscard est cool, ultra moderne dans sa swimming pool. C'est la première édition de l'actuel G7, le sommet annuel de la trompette. 84, séjour en Angleterre, sous la houlette de Reagan et Thatcher, le néolibéralisme prend son élan et frappe de plein fouet le vieux continent. 96, l'antiterrorisme devient la berce préférée du capitalisme dans le musée d'art contemporain de Lyon, alors que mesdames font leur dégustation.
Et pendant que leurs maris travaillaient sur leur dossier, les épouses n'ont pas boudé leur plaisir. On a passé des moments merveilleux. Madame Chirac nous a organisé un emploi du temps magnifique. On s'est bien amusé, la nourriture était merveilleuse. C'est vraiment un beau voyage. Demain, la journée sera centrée sur l'humanitaire et le social. En somme, il s'agit d'un programme équilibré.
À partir de Gênes, à l'été 2001, la contestation gagne du terrain. La réponse du Club des Riches est sans appel. Des centaines de blessés, un mort par balle réelle. Car en plus d'être un rendez-vous colonial, un directoire de politique antisociale, un étalage de luxe et de vanité, le G7 porte avec lui un vent mauvais.
La ville accueille le sommet du G7 du 24 au 26 août. C'est tout le Pays Basque et le sud des Landes qui seront étroitement surveillés.
Voilà, il y aura évidemment un déploiement qui correspond à la menace inédite. extrêmement lourd, qui est celui que nous devons aux habitants de Biarritz et du Pays Basque.
Dans la région, le sujet fâche. Certains parlent d'aiguiser les haches. D'autres suggèrent qu'on ferait mieux de jeter ce G7 au feu. Ou bien alors de le casser, de le détruire, de le briser.
Mais heureusement, le G7 a aussi son fan club.
C'est pourquoi Pays Basque est désormais une marque, un produit. Et ce produit, mesdames et messieurs, nous allons saisir l'opportunité de ce G7 pour le vendre. Oui!
Vive la démocratie, vive le capital, vive les banques d'affaires et les multinationales. Gora Financia, ta mercatua. Gora, gora, gesaspia. Gora, gora, gesaspia.
Croissance, emploi, et tout un peuple en joie, fier de vous recevoir sur son territoire. Dites à vos invités qu'ils peuvent se mettre à l'aise, on leur laisse les clés. Le phare et les falaises. Vive la démocratie, vive le capital, vive les banques d'affaires et les multinationales. Gora Financia, ta mercatua. Gora, gora, gesaspia. Gora, gora, gesaspia.
Merci, merci. Merci d'avoir choisi la cité balnéaire, mille fois mille échecaires. Grâce à votre G7, nous allons faire la fête en votre honneur, chanter tous en chœur. Vive la démocratie, vive le capital, vive les banques d'affaires et les multinationales. Gora Financia, ta mercatua. Gora, gora, gesaspia.
Piment, foie gras, pittoresque vallon, piprade et achoa, pelote et jambon. Venez faire vos emplettes pour sauver la planète. La cerise est dans le gâteau, tous au casino.
Vive la démocratie, vive le capital, vive les banques d'affaires et les multinationales.
Gora Financia, ta mercatua.
Gora, gora, gesaspia. Gora, gora, gesaspia.
G7, une seule solution. G7, la dissolution. 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 G7, une seule solution.
C'est c'est plus compliqué que ce qu'on a beaucoup entendu quand même contre les anti-éoliens, les questions de c'est joli, c'est pas joli, ça gâche les paysages. Donc vous avez donc dans le collectif de la Massade à Saint-Affrique, enfin à côté de Saint-Affrique en Aveyron, vous avez une vision, voilà, de dire l'éolien, oui, mais pas industriel, l'éolien local, citoyen, par des collectifs, c'est différent.
En fait, c'est pas forcément l'éolien vu comme ça, mais c'est d'une manière générale se réapproprier la production énergétique et pas que énergétique, toute la production pour ne plus dépendre d'un système qui est gigantesque et qui produit une destruction totale de la planète. Quand, pour la production d'énergie ou même pour la production de fruits et légumes, quand on doit acheter du café qui vient d'Amérique du Sud ou d'autre chose qui vient d'Espagne, enfin, on n'est plus du tout rattaché à nos localités, et c'est ça qui crée cette destruction partout en fait, et qui c'est un système qui fonctionne juste par l'argent, parce que là on vient de signer l'accord avec l'Amérique du Sud pour augmenter le nombre d'échanges là-bas. C'est parce que ça va coûter moins cher de produire en Argentine, donc on va faire venir de la viande en Argentine ici, sauf qu'on voit pas les coûts environnementaux qu'il y a derrière ça. Et la production d'énergie, c'est la même chose en fait, recommencer à produire l'énergie ici, l'éolien, utiliser l'énergie du vent de manière générale, parce qu'on ne prétend pas être parfait avec notre éolienne artisanale, où on a quand même une batterie, où on utilise des matériaux rares qui ont été nécessaires pour construire cette batterie. On essaie juste de faire un cheminement vers une production d'énergie plus sensée, et dans laquelle on serait capable de vivre en accord avec notre environnement en fait. Plutôt que là, s'il y a de l'énergie, en fait quand il y a du vent, on a de l'énergie. Quand il n'y a pas de vent, on n'en a pas. Quand c'est pas, il n'est pas toujours accessible juste en branchant son téléphone dans la prise.
À la Massade, vers Saint-Affrique, en Aveyron, vous avez donc cette lutte contre les éoliennes industrielles. Et ce qui vous a permis à la Massade, dans ce lieu collectif, de vivre justement une expérience collective. Donc Charles, pour toi, qu'est-ce que tu vis au quotidien? Qu'est-ce que tu apprends pour finalement un nouveau modèle de société et que tu aurais envie de partager avec les auditeurs?
Okay, pour replacer un peu dans le contexte, en fait, ce lieu il existe depuis 4 ans et il a été appelé à être occupé depuis septembre dernier. Là, c'est une occupation illégale. Le lieu est officiellement RTE et on est expulsable sans délai. En attendant, il y a quelques personnes qui sont sur place, qui vivent plus ou moins là-bas. Et qui essaie de vivre autrement en fait, de vivre un système où on essaie de produire nous-mêmes, de vivre en communauté, de réfléchir tous les jours aux questions politiques, à tous les sujets qui nous entourent. Moi, ce que j'ai vécu là-bas, c'est je sens qu'il y a un endroit où il y a une réflexion vraiment poussée sur la question énergétique et sur la question de comment fonctionne le système capitaliste, parce qu'on va bien au-delà de la question juste écologiste, on va vraiment sur une critique du système capitaliste, et ça m'a appris énormément de passer du temps là-bas et de rencontrer beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui passent là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont juste de passage, qui viennent rester un certain temps, qui repartent, et ça permet de créer une dynamique qui est vraiment intéressante. C'est pas forcément facile de s'organiser et d'essayer de vivre d'une manière autonome parfaite, parce qu'on n'est pas sur un lieu qu'on a acheté, sur lequel on pourrait prévoir à des dizaines d'années, etc. On est sur un lieu illégal qui peut être expulsable à tout moment, donc on essaie de faire le bon choix entre planifier à long terme et en même temps se préparer à une expulsion dès demain.
On vient d'ouvrir un petit local, il y a des sympathisants de Saint-Victor qui nous permettent de tenir une permanence tous les mercredis dans le village pour entrer en contact avec la population qui éventuellement physiquement ne peut pas monter sur la plaine là-haut, c'est à 2 km du village, ou qui idéologiquement ne veut pas monter parce que sans nous connaître, nous colle des étiquettes sur le dos. Donc voilà, nous on se bat contre les étiquettes, on invite les gens à passer, et il y a une dimension que on n'a pas mentionné encore ici, c'est tous les soutiens aux alentours. On va aider Jojo à ramasser ses courgettes et il nous en donne une caisse. On a raté ce coup-ci d'aider les autres voisins pour le coût des moissons, mais notre premier soutien, lui, on n'a pas oublié de l'aider. On a fait une fête pour fêter la moisson sur cette terre qui était promise à du béton et à des produits chimiques et des
voilà, un truc un peu bizarre où on peut pas vivre. Et voilà, nous on attend, on ne fait pas que attendre qu'ils ne fassent pas leurs travaux. On essaye en effet ensemble de construire quelque chose de nouveau. Et quand tu viens chercher quelque chose ou apporter quelque chose, et ben tu repars avec autre chose sur un lieu comme ça. Il y a une dynamique un petit peu mystérieuse, je dirais, où le jour où tu te sens pas bien, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va se mettre à chanter des chansons et qui va te redonner de l'énergie pour continuer. Donc il y a quelque chose d'un peu nouveau qui se passe là-bas, dans le sens où c'est une occupation semi-ouverte, où on veut prendre le temps de connaître les gens, s'ils ont des soucis qui envahissent un peu la vie collective, on essaye de les résoudre collectivement, et je trouve qu'on y arrive, quoi. On veut être bienveillant envers toutes et tous les êtres vivants du lieu. Et puis symboliquement, c'est quand même un lieu où il y avait des tombes mérovingiennes dans les environs. Enfin voilà, c'est un lieu qui a été habité par l'homme depuis longtemps, et actuellement la campagne, elle se désertifie. Et il y a les vieux du village qui sont contents de voir passer des jeunes à pied, parce que ça fait des années qu'il n'y a plus personne qui se déplace à pied le long des grandes routes là. Donc il y a toute une dimension locale, malgré le vieillissement et l'isolement de la population, il y a quelque chose, je pense, notamment pour tous les urbains qui se sentent un peu perdus en ville. Et là on est en train de recréer des liens, certes entre nous, des liens différents, mais on n'est pas complètement dans notre petite bulle en autonomie, en autarcie, on est complètement ouvert sur le monde. Et il y a des questions qui se posent un dimanche à une réunion et qui sont résolues par l'autre groupe du dimanche d'après, qui est pas forcément composé du tout par les mêmes personnes. Donc il y a une belle dynamique sur ce lieu, et je vous invite à y passer pour une après-midi, une journée ou une vie, on verra.
Oui, et d'ailleurs, du 6 au 10 décembre, il y a la fête du vin.
Non, c'est en septembre. Mais on fera peut-être quelque chose du 6 au 9 décembre aussi. Ça fait la 5e édition, c'est la fête du vin. La première année, on faisait des cerfs-volants, et cette année, on est arrivé à des conférences, des discussions très poussées sur tous les sujets qu'on a à peine effleurés ici dans cette sympathique discussion. Et c'est un programme riche avec des mini-chantiers d'amélioration du lieu, des ateliers, des discussions, et bien sûr des assemblées de lutte pour anticiper, avoir essayé d'avoir un coup d'avance. Il y en a marre seulement d'attendre. Et moi, quand les gens ils me disent « Oui, mais éventuellement, quand vous empêchez une pelleteuse de couper un arbre, vous êtes violent, vous attaquez. » Moi, je m'estime complètement en position défensive. C'est peut-être les OGM et les pesticides que je respire malgré moi qui me transforment le cerveau et qui me disent qu'il faut faire quelque chose. J'ai entendu une histoire de requins qui attaquaient les surfeurs pour défendre leur lieu de nourriture. Peut-être qu'il y a d'autres forces que les humains qui vont se défendre.
Quelque chose à rajouter sur la fête du vent? Donc on invite un peu tous les gens intéressés sur la question de la transition énergétique, la réelle, la vraie, parce que c'est un terme que vous aimez pas finalement, sur un changement de modèle pour la production énergétique locale, à venir vous retrouver donc à la Massade, vers Saint-Afrique, du 6 au 10, septembre.
Septembre, dans quelques semaines. Donc oui, toutes les personnes intéressées qui aimeraient passer, il y a de la place pour camper, il y a quelques places pour dormir. Même avant, même en dehors de ce genre de date où il y a des événements, tout le monde est bienvenu pour passer et venir discuter de tous ces sujets. Donc à bientôt, j'espère.
C'était l'ours et la carotte, écoutable sur Internet.